Bienvenue à cette table ronde intitulée The Big Bang Theory, l'humour sert-il la science ? Voilà, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre ou pas. Alors moi, on m'a demandé d'animer la table ronde. Je dois avouer, d'entrée, j'ai vu un épisode de Big Bang Theory et j'ai pas trouvé ça... Non.
On compte sur vous, hein.
Donc, ma première question...
Qui a pas trouvé ça drôle dans la salle, Big Bang Theory ? Qui a pas trouvé ça drôle ? Qui l'a pas vu ? Bon, alors, ils ont trouvé ça drôle.
Alors, je vais peut-être vous laisser. Non, alors, je vais laisser les autres en parler, peut-être. Ceux qui ont... David, tu l'as vu, toi ?
Pas moi. Moi, je déteste Big Bang Theory, quoi. Voilà.
Ah, il y en a un, merci. Il faudra faire barrière de votre corps.
Non, alors Roland, peut-être. Oui, Roland, il a vu quelques épisodes.
Oui, moi j'ai vu la première saison, je crois que j'ai vu deux saisons de Big Bang Theory. J'ai trouvé ça drôle. Mais j'ai trouvé ça drôle et pas drôle. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a effectivement des situations vraiment marrantes. Et pas drôle parce que. J'ai compris comment j'étais quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai réalisé, évidemment, c'est une série, c'est de la télé, c'est caricatural par certains côtés, mais bon, voilà, c'est. Voilà, je comprends absolument toutes les blagues et toutes les allusions de Big Bang Theory, voilà, okay. Pour vous dire. Donc, je veux dire, il n'y a rien, t'es transparent pour moi.
J'ai juste oublié de vous présenter tous, je suis désolé, je fais ça à l'envers. Émile Bravo, à ma droite, qui est scénariste et dessinateur de bande dessinée.
Bonjour. Voilà.
Notamment, ici, on va peut-être plus parler
de quoi ?
D'une série en particulier. David Calvo, à sa droite, qui est auteur, dessinateur, créateur de jeux vidéo. Daniel Tron, universitaire, chercheur en littérature.
En science-fiction.
Ok. Et Roland Lehouk, donc, qui est notre conscient scientifique. C'est le seul vrai scientifique de la bande. Et qui est aussi directeur président des Utopiens. Oui, ma question, c'était... Moi, je trouvais ça... ce que j'ai vu, je trouvais très, très cliché. Toujours l'image sur les scientifiques. Un peu asociaux, un peu... pas de ce monde, un peu... Voilà. Alors, ça... les scientifiques que je connais, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment comme ça.
Ah oui, ça c'est certain que le scientifique de base, il n'est pas comme on voit Sheldon et Leonard dans Big Bang Theory, évidemment. Là, c'est caricatural, mais aussi c'est caricatural d'un monde, du monde, disons, des geeks ou du monde des gens passionnés par la science et qui sont vraiment dans leur univers scientifique et qui après évoluent, ils grandissent quand même à la fin. Enfin, j'ai pas vu les dernières saisons, mais je crois qu'ils ont quand même des relations, ils finissent par avoir une copine, enfin, il se passe des choses et puis ça évolue vers quelque chose où c'est moins centré sur des discussions de science ou des situations cocasses liées à la science ou à leur pénétration et leur envie de leur passion pour la science qu'à des situations, disons, plus humaines, plus de relations sociales pour ce que j'en comprends, que je n'ai pas vu des épisodes des dernières saisons. Mais c'est vrai que les scientifiques ne sont pas dans leur tour d'ivoire, a priori. Ils sont quand même, c'est des gens, des hommes et des femmes comme les autres. Ils sont quand même passionnés, mais ce n'est pas non plus les seuls passionnés. Il y a des gens qui peuvent être passionnés de sport ou passionnés de musique ou passionnés de je ne sais quoi. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Ils sont comme tout le monde, pour l'essentiel, ils sont comme tout le monde. Mais il faut reconnaître, vous avez peut-être vu Cédric Villani quand même, de temps en temps, Villani, quand il se pose une question, vous voyez, il s'arrête 2 minutes, il est en train de réfléchir à ce qu'il va vous dire, il vous répond. Il a quand même un univers intérieur, et cet univers intérieur se manifeste de manière évidente, parfois, dans les relations sociales. Et ça peut, évidemment, avoir certaines fois des situations cocasses ou des situations un peu différentes des situations habituelles.
Daniel, non, tu voulais...
Non, mais sur la question, j'ai qu'une chose à dire, c'est...
Oui.
C'était quoi ?
Ça, c'est Sheldon déguisé en effet Doppler, au début de la série. Enfin, moi, c'est bête, hein, mais je veux dire, dans la série, donc, j'ai vu en fait la première saison, et le truc qui m'a vraiment fait le plus rire de tout ce que j'ai vu de Big Bang Theory, c'est tout au début, et c'est ça. Je veux dire, je suis déguisé en effet Doppler. Comme quoi, on peut faire rire avec de la science. Après, comme on disait, par contre, là, je nous dédouane nous-mêmes, hein, excusez-moi, on discute entre nous, vous pouvez partir. Le Big Bang Theory, où l'idée, c'était quand même un point de départ sur humour et science. Je veux dire, parce que sur la série elle-même, Oui, c'est extrêmement bien fait. Pour ce que j'ai pu en voir à la suite des séries ou des saisons, on est quand même sur des fonctionnements de séries américaines assez classiques. Donc il faut un ressort amoureux, il faut voilà qu'il y ait un couple qui ne se fasse et se défasse, etc. Par contre, sur l'ensemble des gags qui sont faits à partir d'un savoir scientifique, oui, ça fonctionne extrêmement bien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pensais, moi, que Big Bang Theory, c'était effectivement comme un trou et qu'on allait surtout parler d'humour, science et SF.
Évidemment.
On est d'accord.
Évidemment.
Nous voilà rassurés, vous pouvez rester.
Justement, quelqu'un qui utilise l'humour et qui essaye de le coller, alors je ne sais pas si c'est de la science, mais plutôt de la vulgarisation. Oui, c'est toi, Émile. Oui. Les épatantes aventures de Jules. Décris-nous un peu ce que c'est et en quoi tu utilises la science. Ça fait partie du projet quand même, je pense.
C'est la science. Oui. En fait, voilà comment ça part. C'est un constat en fait que j'ai fait en fait dans mon enfance et je pense que tout le monde a eu cette expérience. C'est en fait c'est les profs en fait pendant ma scolarité. Et je me suis rendu compte qu'en fait les profs dont je me souvenais en fait c'était ils doivent se compter sur les doigts d'une main à peu près. Je me souviens bien de ce qu'ils m'ont dit en fait et j'ai cherché le point commun, puis en fait il était assez évident, c'était qu'ils avaient le sens de l'humour. Ils avaient du recul en fait par rapport à ce qu'ils disaient, par rapport à ce qu'ils nous inculquaient et donc à partir de là, je me suis dit si on veut faire passer quelque chose, si on veut être un peu didactique, il faut le faire avec une méthode ludique quoi, et le sens de et l'humour ça passe très bien et je pense que c'est le meilleur moyen finalement de présenter un discours un petit peu pesant d'apporter ça avec des touches d'humour constantes, ce qui fait que je pense qu'on aime tous rire quoi. Si on se souvient un petit peu de ce qui nous a fait rire, on se souvient fatalement en fait de la leçon quoi. Et moi j'ai bien retenu ça finalement et je me suis dit allons-y. Moi je disais souvent moi j'aimais bien être en classe, j'étais souvent au fond de la classe, j'étais avec les cancres, j'étais plutôt un bon élève, mais en fait il fallait que je vive le cours aussi avec les cancres, parce que les cancres aussi me faisaient rire. Alors quand les profs n'étaient pas drôles, c'était les élèves qui l'étaient, et ça aussi ça m'aidait en fait à me souvenir un petit peu de la leçon, parce que il y avait tel moment, il y a l'autre qui avait sorti cette grosse bêtise qui m'avait fait rire, et donc voilà quoi. Et donc en partant de ce point de vue, en fait je me suis dit si j'ai envie de construire une histoire et parler en fait de quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que moi ça me fascine un peu en fait. Je disais hier que en fait les sciences me fascinent quand elles touchent en fait mes problèmes existentiels en fait, quand elles arrivent à résoudre en fait quelque chose en fait de ces questions que je me pose. Et à partir de là, quand j'ai envie de faire passer cette idée, il me semble que la meilleure façon c'est de faire passer ça par l'humour. Donc voilà quoi.
Dans Jules, la science, elle est très concrète, elle est mise en scène. On voit les exemples et les effets de la science, en fait, à chaque fois.
Ouais.
Quand dans un paradoxe temporel, ouais. On voit qu'il y a un écart d'âge, par exemple. Est-ce que c'est la science qui est à la base de l'humour? Est-ce que c'est des théories scientifiques qui te disent, à partir de là, je pourrais faire un gag, par exemple, ou ça, c'est rigolo? Ou est-ce que tu essayes de mettre de l'humour dans la science?
Oui, bien sûr déjà. je pense qu'au départ, il y a ce qu'on a envie de dire, et après ça, moi de toute façon, j'arrive pas à tenir une conversation sérieuse très très longtemps, c'est par nature. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire des conneries, quoi. Et donc à partir de là, il se passe exactement la même chose quand je sors un discours, quand j'essaye d'écrire, d'expliquer quelque chose, je peux pas m'empêcher de me dire, et si j'étais à la place de celui qui écoutait, celui qui écoutait des fois se décroche, et c'est là où ça devient drôle. Moi je me souviens quand, par exemple, je sais pas si les gens ici se souviennent de, s'ils ont lu ou s'ils se souviennent de cet album d'Hergé qui s'appelle Objectif Lune, où on décrit quand même en fait tout le fonctionnement d'un moteur nucléaire. Et ça, bon, y a du texte, énormément de texte, et puis à côté de ça, il y a un truc qui désamorce complètement. Il y a le capitaine Haddock qui dit, quand on dit oui, à ce moment-là, il y a un électro, enfin il y a le scientifique qui dit oui, il y a un électron qui s'est détaché, tout ça. Enfin, et vous allez me dire qu'est-ce qu'il est devenu cet électron? Et le capitaine Haddock dit ah oui, justement, je m'inquiétais à son sujet. Et ben moi, quand j'étais petit, évidemment, on comprend absolument rien quand on lit le côté tout le texte didactique, mais quand on lit ce que dit le capitaine Haddock, on s'identifie et on rit. Et je trouve que c'est vraiment une bonne méthode en fait pour faire passer en fait. Même si on n'a pas bien compris, on sait très bien qu'ensuite on peut le relire, mais ça rend le discours agréable parce que tout de suite, ça désamorce le côté sérieux et chiant du discours scientifique, quoi. Voilà.
Est-ce que
peut-être que personne n'a rien à dire là-dessus? Je monopolise la parole.
Non, je pense à une chose en BD. Moi, c'est une chose qui me fait énormément rire en ce moment, qui a un blog au départ et qui a été édité en BD aussi. Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Où effectivement, là, on a une forme, si vous connaissez pas, allez-y, où elle part à chaque fois, elle se documente. Donc, on a que des faits absolument sérieux. C'est juste qu'elle les illustre de manière absolument merveilleuse. Et on reste sur des formes, effectivement, très très spécifiques.
C'est un délire à chaque fois. On essaye d'expliquer en fait, aussi une théorie scientifique, ou alors de démontrer qu'une chose n'est pas vraie, mais c'est fait qu'avec du gag et du délire, et c'est fantastique. Ça donne, je sais pas si vous connaissez pas, c'est Marion Montaigne qui fait ça, et il faut absolument lire ça. C'est très très drôle.
Ce que tu fais toi, Émile, c'est, on peut dire que c'est de la vulgarisation, mais en fiction, enfin, il y a une part de vulgarisation.
Oui, mais parce que moi-même, je suis pas réellement un scientifique. C'est l'aspect humain, enfin, qui m'intéresse. Je dis souvent que moi, ce qui m'enquiquine dans ce monde, c'est notre côté anthropocentrique, quoi. Et ça m'énerve. Le problème de l'homme, c'est son ego. Et tout ce qui à travers la science, en fait, peut écraser l'ego de l'homme. Et encore une fois, je disais hier, écraser l'ego, c'est pas écraser la personnalité. C'est seulement comprendre qu'on vit avec les autres et qu'il va falloir vivre en communion, quoi. Et tout ce qu'il y a à ça, au niveau des sciences, tout ce qui nous fait relativiser, justement, je trouve ça hyper important. Je pense qu'il faudrait vraiment, en fait, en parler dès l'enfance, dire à un enfant qui, lui, justement, par définition, est hyper autocentré, lui dire, mais mon petit, il va falloir que tu comprennes que, voilà, il y a tous ces gens autour de toi, vivent avec toi, que toi-même, tu n'es pas grand-chose. Je pense que si on commençait dès l'école primaire à expliquer de quoi on est fait, et nous mettre en communion, comme on en parlait hier aussi, avec l'univers, c'est-à-dire qu'il fallait expliquer que la plupart des atomes qui nous composent en fait sont fabriqués en fait dans le cœur des étoiles. Là, tout de suite, les enfants, ça leur parle, les étoiles. Donc, dès qu'on est petit, on est fasciné par ça, et de savoir qu'en fait on est fabriqué à travers en fait des éléments qui sont fabriqués là-haut. Constitué là-haut, on se dit c'est génial, il faut absolument le dire aux enfants. Je veux dire, ça parlerait tout de suite. Tu es fabriqué là-haut, c'est pas simplement dans le ventre de ta mère, c'est là-haut aussi. Et ça, c'est je trouve ça tellement primordial que ça te met, non seulement ça te met en fait, en osmose avec l'univers, mais en plus de ça, ça te fait comprendre de quoi tu es fait et comment tu es constitué. Et si ça, t'arrives à le dire avec un petit peu de, en rigolant, parce que c'est parfait.
Roland, est-ce que une vulgarisation scientifique sans humour est à moins de portée et moins efficace?
Alors, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Enfin, moi, j'avoue que j'utilise un peu dans mon usage de la science-fiction, enfin des œuvres de science-fiction, notamment du cinéma, pour parler de science. J'avoue que j'aime bien. D'abord, il y a le raisonnement scientifique. Ou le raisonnement simple qui dit ça marche pas, c'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est la partie d'enquête, se dire par exemple, si je prends le cas de Dark Vador ou de l'empereur, mettons l'empereur, c'est plus intéressant, et de se dire l'empereur, par exemple, il électrocute Skywalker avec il met ses mains en avant, il utilise la force et il y a des grands éclairs qui sortent et il électrocute Skywalker. Alors on peut faire tout un raisonnement scientifique pour dire comment ça fonctionne. Alors avec la force, on ne sait pas trop parce que c'est quand même pas clair la force. Enfin, il utilise la force comme un générateur de tension. Et puis on peut mesurer la longueur des éclairs. Et puis connaissant la tension disruptive de l'air, on en déduit la tension, la différence de potentiel. Enfin, ça commence à être un peu chiant. Et on aboutit à une valeur que l'empereur, il est à plusieurs dizaines de millions de volts de différence de potentiel par rapport au sol. Et puis là, on réalise, mais pourquoi il ne s'électrocute pas lui-même, l'empereur? Alors on se dit, oui.
Parce qu'il a des semelles crêpes.
Voilà, parce qu'il a des semelles crêpes. Alors, il a des semelles crêpes. Alors ça, c'est une bonne réponse.
Je suis mauvais en physique.
Bien. Alors, il a des semelles crêpes. Mais alors, les semelles crêpes, c'est comme ça. Parce que, évidemment, si elles ne sont pas assez épaisses, ça va pas le faire quand même, parce que c'est un isolant, mais il faut que ce soit une bonne épaisseur. Là, on se dit, bon, on se documente sur les semelles crêpes, la résistance électrique des semelles crêpes, ça continue à être un peu chiant. Et on se dit, ben, quelle épaisseur de semelle il faut? Et elle obtient un truc, 40, 50 centimètres.
Ah, c'est Prince.
Donc ça veut dire, voilà. Alors là, ça devient plus intéressant, parce qu'on réalise que l'empereur, c'est probablement une drag queen. Enfin, tu vois, elle a des pompes de drag queen. Alors ouais, c'est là où ça change. Et en fait, ce raisonnement scientifique, bon, il peut intéresser les scientifiques, il peut intéresser ceux qui veulent parler de science, ceux qui sont intéressés par les sciences, comment on peut s'emparer d'une œuvre de science-fiction et puis parler de science avec, finalement, parce qu'en même temps, l'Empereur, Star Wars, tout ça, vous n'êtes pas dupes, quoi, c'est pas de la science, évidemment. Qu'on peut s'en emparer, faire ce raisonnement, apprendre des choses, et puis en même temps, on aboutit à une réponse qui est marrante. Et c'est ça que j'aime bien, moi, aboutir à une réponse qui est marrante, dire bah, l'Empereur, il a des pompes de drag queen. Et du coup, ça justifie aussi pourquoi il a un grand manteau, parce qu'il veut pas qu'on voit ses pompes de drag queen. En même temps, ça reste de la science, même en disant ça, parce qu'il y a une expérience facile, théoriquement facile à faire. Il suffirait de soulever les jupes, survivre à l'expérience aussi, soulever les jupes de l'empereur et voir s'il a ou pas ces pompes-là, pour voir si notre raisonnement, qui est juste scientifiquement, mais s'il aboutit à la bonne réponse. Parce que peut-être, je sais pas, il a peut-être avec la force un super isolant sous les pieds qu'on connaît pas, c'est pas des pompes de crêpes, c'est des pompes en je sais pas quoi. Voilà, donc c'est ça qui est rigolo, c'est de faire apparaître dans ces films de science-fiction, finalement, ça a l'air sérieux, l'empereur, il écrabouille Skywalker, il se passe un truc sérieux, quoi, c'est vraiment sérieux. Et en même temps, si on, avec le raisonnement scientifique, on aboutit, parce que ces films-là ne sont pas des films de science, parce qu'ils ne veulent pas être sérieux scientifiquement, évidemment, on aboutit à un écart terrible entre la réalité scientifique, ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe comme on le voit. Ça serait possible, hein, s'il est branché à un générateur de potentiel de 10 millions de volts, s'il est branché, enfin, s'il a des pompes qui vont bien, il peut faire ça, mettre ses doigts avec ses doigts lui-même. Enfin, il n'y a pas d'impossibilité physique à faire ça. Et en même temps, voilà, on se dit, mais quand même, ça veut dire, il se passe un truc bizarre derrière. Donc voilà, c'est, je pense, ce décalage-là entre ce que la science nous dit qu'il faudrait que ça soit et ce qui est dans le film, qui permet de pas tourner le film en dérision, parce que le film, il est, bon, enfin, je veux dire, on s'en fout, le film, il est intéressant ou pas pour d'autres raisons que la science qui est dedans, mais de se dire que finalement, tout ça, ça le désamorce. Et tout ce raisonnement qu'on a fait, il reste pertinent, mais on le désamorce par ce jeu-là. Et on peut le faire à de multiples reprises avec Superman. Enfin, on pourra en discuter après. J'ai fait des choses sur Superman où on se dit, bon, alors d'accord, Superman, il existe. On prend les pouvoirs de Superman. Le premier Superman, enfin celui des années 36, 38, le premier, 38 je crois, le premier Superman, parce que les pouvoirs sont pas trop délirants, on les garde et on se dit, voilà, ça c'est le cahier des charges du héros. Est-ce qu'avec ce cahier des charges, je peux construire le héros? Et chaque fois qu'on prend un pouvoir de Superman, on prend un humain normal, comme Superman, enfin un peu baraqué mais normal, et on déforme l'humain pour qu'il respecte le cahier des charges des pouvoirs. Et à la fin, on obtient une espèce de gnome infâme, enfin un truc pas clair, et des oreilles pas possibles, des yeux énormes, enfin... un être qui n'est pas du tout celui qu'on nous montre. Voilà, cette histoire-là d'utiliser la science pour déconstruire le héros et en faire un truc bizarre, enfin, en tout cas, moi, c'est un ressort humoristique qui est facile à utiliser et qui marche bien. Alors après, ça, l'œuvre, on la garde, l'œuvre, elle est sacrée, et on aime Superman ou on aime Star Wars pour d'autres raisons que la science qu'on y voit, évidemment.
Il y avait eu une nouvelle, et dans les années 60, je ne me souviens plus l'auteur, je crois que c'est Harrison, mais je ne suis pas sûr, justement, qui avait poussé exactement comme toi le truc de Superman, mais au niveau sexuel, comment il se reproduit avec Lois Lane.
Comment il mange, c'est intéressant.
Ouais, et bon, alors il expliquait que la puissance de spermatozoïde, de l'éjaculation, elle ne pouvait pas résister, Lois Lane. Donc, donc voilà, vous apprenez qu'ils ont une relation platonique.
En fait, c'est ça, l'idée, c'est. À partir de ce que je vois et en essayant de avec la science, j'essaie de me faire une idée plausible d'autres choses dont on ne me parle pas et qui sont là si je prends pour acquis le super-héros, le film et la science en même temps. Et là, on obtient Superman qui a des spermatozoïdes qui vont à la vitesse de la lumière ou pour manger, pour faire ses exploits, il lui faut de l'énergie. Il l'apprend comment il mange, comme nous, Superman, hein, il mange. Et il mange beaucoup de hamburgers, quoi. Mais beaucoup, beaucoup. Donc là, il faut être vraiment la super vitesse, elle est utile pour pouvoir les manger vite et pouvoir faire de temps en temps quelque chose. Sinon, il passe 24 heures par jour à manger pour voler juste 5 minutes.
Quoi. Et il a des toilettes en titane.
Il a des toilettes en titane, effectivement. Même en. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, c'est là où c'est rigolo. Voilà. C'est tout ce qui se déduit, finalement, c'est cette partie d'enquête, finalement. D'avoir de l'information qui n'est pas donnée a priori, de la déduire de ce que l'on voit et de ce que l'on sait de la science, en faisant l'hypothèse que les deux vont ensemble, évidemment, alors qu'évidemment, elles ne vont pas ensemble, parce que ce que l'on voit, c'est pas de la science, c'est Superman, ou c'est Star Wars, ou Star Trek, ou je sais pas quoi.
Oui, j'y pensais du coup rebondir, c'est que la première chose que j'ai pensé en voyant Humour et Science, si on parle dans le cinéma de science-fiction, on a un corpus énorme d'humour totalement involontaire. dans la représentation du savoir scientifique dans le cinéma de SF. Dès qu'on commence à se poser la question de manière un peu sérieuse, je vais prendre un exemple simple qu'on a vu en cours d'histoire, deux, trois exemples. On prend le remake, même dans l'original, mais le remake est encore plus clair, du jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves. Avec l'immensément expressif Keanu Reeves. Il faut absolument qu'un spectateur lambda qui va voir un film avec Keanu Reeves, et donc dont on peut s'attendre à ce qu'il ait un énorme bagage scientifique, comprenne que Klaatu est hyper fort, alors que John Cleese, qui lui est un humain, est beaucoup moins fort. Donc on a une magnifique scène avec un tableau noir, avec de grandes équations. Ça, c'est facile à comprendre. Quelqu'un qui, chez lui, a un tableau noir avec des grandes équations, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait des trucs que je sais pas. J'ai pas envie de les savoir, parce que manifestement, il passe son temps à faire un truc chiant, mais il sait des choses. Et donc, évidemment, Keanu arrive, très calme, il commence à effacer des choses. Alors, on a du piano derrière. Parce qu'évidemment, on a une métaphore. Il se met à poser une équation. John Cleese, réagissant au piano, et se met lui aussi à poser une équation à côté. J'ai vu souvent des scientifiques comme ça, sans regarder ce que l'autre fait, il pose une équation à côté.
Il y a une scène dans un film de Hitchcock, je crois, comme ça, oui. Où il y a deux scientifiques qui s'engueulent par équation interposée. Ils sont sur un tableau noir. Il y en a un qui écrit son équation. L'autre, il regarde ça, il dit, il n'y a pas un mot échangé. Il efface, il met un truc à côté. L'autre, il remet un truc et il se bastonne à coup d'équations comme ça. Ce qui n'arrive jamais. Enfin, ouais. On peut discuter sur les équations en science.
Il y a un spectateur sur 10 000 qui rigole.
Ah oui.
Celui qui comprend.
Oui. Et encore, elles ne sont pas toujours justes, ces équations.
Et là, leur problème, il est là, c'est qu'il faut qu'ils comprennent, quoi. Donc, ils commencent à écrire tous les deux les équations. Et là, Keanu, il fait un grand cercle. Il met une flèche. Ah! Il y a un truc qui n'est pas à sa place. Et ça dure une minute comme ça, et à la fin, là, on comprend tout. John Cleese fait un truc supérieur à zéro, donc même un nain en maths comme moi comprend, et là, Keanu arrive et non, divise par zéro. Et là, John Cleese ponctue des fois qu'on n'est pas compris. C'est impossible. Et la représentation de la science ou de l'argument scientifique dans le cinéma de SF, souvent, on a quelque chose comme ça. Si on porte un regard un peu sérieux dessus, prenons le film avec le scénar le plus court de toute la Terre. Court-métrage y compris, 2012 de Roland Emmerich. Donc au début, il faut qu'on comprenne qu'il y a un problème. Donc il fait chaud. Il fait très chaud. Donc il descend, on comprend qu'il est scientifique, il y a un petit coup de fil, il y a un problème, il a l'air inquiet, donc il fait chaud. Donc pour qu'on comprenne qu'il fait encore plus chaud, il descend, il fait chaud. À l'arrière-plan, il y a un Indien qui a des pieds dans l'eau, donc il y a quelqu'un qui verse de l'eau avec des glaçons, il fait très chaud. Donc il regarde un diagramme, qui est à peu près la précision d'une pub pour dentifrice. Hein, on voit bien que la courbe, elle monte, donc c'est mieux.
On ne sait pas ce que c'est.
Mais c'est mieux. Donc là, il regarde, ils ont l'air super inquiets. Et là, il lui lance la bombe. Les neutrinos ont un effet physique. Merde. Là, il y a un truc qui se passe. Là. Apparemment, ça fait un effet micro-ondes sur le centre de la Terre, qui, c'est bien connu, est une soupe froide. Mais ce n'est pas grave. Il y a un effet physique. Ils sont tous super inquiets, quoi. Et comme ils sont scientifiques inquiets, il y a un problème. Et là, il va lui montrer. Parce que c'est bien de le regarder sur un diagramme. Alors, on rentre dans une pièce, il y a un plan superbe, c'est tout noir. Alors, il y a une grande porte ronde, avec au milieu un puits rond, il y a une écoutille. Alors, il y a un rapport de forme. C'est comme la planète. Donc, on comprend qu'a priori, le cœur, c'est relié au cœur de la Terre. Donc, ils ont fait un gros puits qui est relié au noyau. Et là, il ouvre, et là, il y a de l'eau qui boue. Les carottes sont cuites. Fin du scénar. À partir de ce moment-là, c'est bon. Les neutrinos sont en effet tranquilles. L'Himalaya se déplace de 300 km. On est tranquille. On a vraiment un problème.
Los Angeles s'effondre.
Et on a des scènes parfois qui confinent complètement à l'absurde. J'en montrais en cours du soir l'autre jour parce que c'est assez rigolo de les chercher. Mais prenez Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type. Voilà. Il y en a une scène d'explication au milieu avec François Truffaut qui explique. Alors on a tout. Hein. Ils ont un problème, c'est qu'ils savent pas pourquoi les Indiens font. Alors, on a bien compris. Alors, cinématographiquement, ça marche génialement bien. Je veux dire, l'enchaînement de la séquence est sublime. Et là, donc, on a une conférence scientifique qui vient d'expliquer. Donc, il y a tout un parterre. Il dit, je vais me servir de l'alphabet de Zoltán Kodály. Zoltán Kodály, il doit être intelligent.
Avec un nom pareil.
Donc, il donne.
C'est un gars sérieux.
Ouais, ouais. Il distribue ses documents. Donc, relié cuir, c'est important. Et là, il nous montre. Et donc, c'est tout ce qu'il fait, en gros. Il y a un gars complètement immobile qui fait... Lui, il rajoute... Ça correspond, ils sont tous ravis, ils applaudissent, et là, on vient de résoudre la question scientifique.
Ouais.
C'est efficace.
Okay.
C'est efficace, quoi. Mais ça suffit. Et par contre, on a des utilisations très intelligentes de ça, notamment dans Galaxy Quest. dans Galaxy Quest, qui là pour le coup est un film qui volontairement fait de l'humour sur des codes de série, là on se retrouve avec notamment moi, une des scènes qui me fait le plus hurler de rire, c'est quand ils arrivent sur la planète et que là faut qu'ils ouvrent et qu'ils voient s'ils peuvent respirer quoi. Et donc il y en a qu'un en fait qui a joué la victime, hein, celui qui est apparu juste dans un épisode et qui meurt et qui a même pas de nom dans le générique, donc il sert vraiment à rien, hein, non, c'est, et donc il y a effectivement celui qui joue le sergent technicien Chen qui ouvre la porte et l'autre qui est là derrière, mais enfin, mais tu sais pas du tout, il y a de l'atmosphère, il y a quelque chose, et lui est là. Seems okay to me. Et ça suffit, il continue, et on refait exactement la même scène 2 minutes après, où il voit les petits extraterrestres qui ont l'air de tout mignons bleus, et ils sont là, oh ils sont mignons, et il y a juste lui paniqué, mais vous avez jamais vu votre série? Là ils sont tout mignons, dans 2 minutes ça va être des monstres horribles, qui vont nous dévorer, effectivement. Et...
alors que le coup des gars qui respirent sans réfléchir, dans Prometheus ils font ça, hein.
Oui,
ils enlèvent
problème.
Le casque, en et disant, bah, l'air est respirable, mais il y a sûrement pas de bactéries, de microbes, et tout. Je l'enlève quand même, ça va marcher.
Ouais, c'est vrai, c'est cool. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais Prometheus, c'est quand même un festival de science rigolote, quoi. On en parlait alors, hier, mais il y a le biologiste le plus crétin de la Terre.
Je me réveille. Je vais défendre Prometheus.
Ah, on est sûr de.
C'est bon, ça suffit bien le gag.
Non, mais attendez, franchement, on est là pour rigoler, quoi. D'accord. Moi, j'ai jamais autant ri que Prometheus. Je me suis éclaté. Alors, je vais juste faire un truc parce que moi, j'adore quand la science veut rien dire. Je trouve qu'on n'a pas assez d'absurde et que l'humour, ça sert aussi à désamorcer des problèmes d'autorité et de sérieux. Moi, je connais rien en science, rien, rien du tout. Et j'aime quand ça veut dire n'importe quoi. Moi, j'aime bien dire n'importe quoi, en fait. Je trouvais 2012 absolument remarquable à ce niveau-là, quoi. Le problème de 2012, c'est que c'est un problème humain, il n'y a pas de personnages. Il y a eu des personnages super intéressants, qu'on ait des neutrinos qui font... parce qu'en fait, c'est les neutrinos qui bombardent la couche terrestre et après, ça glisse. C'est mortel, je veux dire, à niveau scénariste, de se dire comment faire pour toucher l'Himalaya alors qu'on part d'Hawaï, sans essence, de dire que l'Himalaya arrive, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Moi, j'adore ça. Ce sera merveilleux. Et donc, Prometheus, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est-à-dire que passer les 10 premières minutes, où on se dit, bon, on est dans un film, la galaxie de la terreur, les archéologues, machin, etc., on commence à rire. Et moi, j'ai pas arrêté de rire, Prometheus, quoi. Et c'était peut-être pas l'intention, mais le plus grand fou rire que j'ai eu de mémoire, c'est le mec qui fait gousi-gousi à la créature, là, le biologiste. Là. Non, mais c'est phénoménal ce truc. Et moi, je voudrais prendre la défense, je me dis que c'est un grand film comique et que c'est notre point de vue sur la science qui est un peu trop sérieux. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à dire que ces gens font n'importe quoi et que c'est touchant de voir des gars essayer de faire un truc super beau et des plein de machines et tout, et que les mecs sont capables d'enlever leur casque en disant, c'est bon, on y va, quoi. C'est merveilleux que les mecs, ils se perdent. Le gars, il se perd dans les souterrains. Il a de la 3D partout.
C'est le responsable. C'est le responsable.
Il est en relation avec le vaisseau et tout. C'est super. Il se perd dans les couloirs et tout. C'est génial. Et au bout d'un moment, quand ils sont perdus et qu'on leur dit, bah restez là, surtout bougez pas. Hein. Le mec, il dit, non, non, on va aller retourner là où on voulait pas aller. Attends. Des films comme ça, on en a pas beaucoup. Il faut les chérir, quoi. Donc moi j'encourage au contraire à dire n'importe quoi. Moi je suis un peu comme le papa de Hobbes dans Calvin et Hobbes, quoi. Qui va lui dire n'importe quoi. Jamais il lui dira pourquoi, d'où vient le vent. Le gamin il arrive, il dit des trucs super. Et le gamin il lui dit, mais non, mais c'est parce que c'est toi qui tourne. Le gamin, j'adore ça, moi je trouve ça merveilleux. Parce que ce que disait Emile, c'est ça, c'est que c'est pas drôle la science.
Si, ça peut l'être.
Mais non, mais à la base c'est pas vendu comme être, c'est pas censé être drôle, censé être vrai.
Ouais, c'est pas prévu pour être drôle, mais ça peut être
drôle, très drôle.
C'est pas prévu pour.
Ah ouais, non, mais attends, j'adore la science quand c'est n'importe quoi, quoi. Ouais. La science elle-même, ok. Essayons de faire une blague, une vraie blague de scientifique.
Attends,
toi t'es scientifique, tu sais, moi je suis pas scientifique. Une vraie blague de scientifique, ça pourrait être quoi?
Ah bah il y a des tas de blagues de scientifiques.
Ouais, non, mais une vraie, une pure, une truc vraiment.
Comment ça?
Est-ce que tu peux sortir une blague pour faire rire que les physiciens dans la pièce?
Exactement.
Que eux qui vont comprendre.
Pas le Big Bang Theory, pas l'effet Doppler que Gaston Lagaffe faisait déjà.
Non, mais dans Big Bang Theory, il y en a une comme ça, une blague de physicien où il y a des gens qui rient absolument pas. Mais... je sais pas si vous la connaissez, c'est le problème de la poule. Vous avez une poule qui pond plus d'œufs. Le fermier, il est embêté. Alors il va voir des tas de spécialistes des poules et des œufs qui essaient de résoudre le problème et il n'arrive pas à résoudre le problème. Personne n'arrive à résoudre son problème de ces poules qui pondent plus d'œufs. Alors, en désespoir de cause, il va voir un physicien, théoricien. Il demande, mais je sais plus que vous, et mes poules pondent plus l'œuf, est-ce que vous pouvez résoudre le problème? Ben, il dit, j'en sais rien, je vais réfléchir. Le gars part pendant 15 jours, il revient, il dit, j'ai trouvé une solution pour vous. Ah, merci. Super. Il y a un seul petit problème, c'est une poule, c'est une solution qui ne marche que pour les poules sphériques dans le vide. Il y a à peu près ça de physiciens dans la salle. Voilà. Parce que, en science, tout est sphérique dès qu'on ne sait pas trop la forme, et tout est dans le vide, sans frottement, dans des conditions idéales, dès qu'on ne sait pas traiter le problème. On n'arrête pas de prendre que le problème général, avec toute la merde compliquée, les frottements, le rayonnement, la température, tout ça c'est compliqué, alors on élimine tous les points emmerdants, qui vous emmerdent, à la limite, vous décidez arbitrairement que ce point-là vous arrange pas trop, alors vous allez l'enlever, vous espérez qu'il va pas trop compter, et vous faites un problème très simple, qui se réduit en général, les formes c'est des sphères ou des plans parallèles ou des cubes, il n'y a pas de matière, enfin il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout, et vous essayez de résoudre ce problème trivial qui n'a rien à voir avec la réalité. Et donc cette blague-là qui n'est compréhensible que si on comprend comment ça fonctionne la science, qui commence par faire des modélisations en général très frustres, très simples du problème compliqué qu'elle étudie, elle commence par ça, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et parfois, même une modélisation comme ça extrêmement simple donne des résultats agréables, c'est-à-dire comparables ou pas si loin de la réalité. Et après on raffine, alors si ça donne rien, si ça n'a rien à voir, on dit bon allez c'est bon, on arrête tout, on repasse au sûr. Donc voilà, c'est cette blague-là qu'on voit dans Big Bang Theory, il y en a d'autres comme ça, il y a par exemple, en maths, alors j'ai pas fait, je voulais la faire avec Villani, mais j'ai pas osé quand même, il y a deux blagues sur les mathématiciens comme ça, il y en a plein, il y a un livre complet de blagues sur les mathématiciens. Il y a trois sortes de mathématiciens, ceux qui savent compter et ceux qui savent pas compter. Bon, alors ça fait rire, voilà, une catégorie de personnes qui n'est pas tout le monde. Il y a une autre sorte de blague, un autre niveau, il y a 1-0 sorte de mathématiciens, ceux qui savent compter en binaire et ceux qui ne savent pas compter en binaire. Alors là, c'est encore un niveau au-dessus. Donc voilà, ça c'est des blagues, voilà, il y en a qui rient, alors lui c'est un mathématicien, un scientifique, en dépit de son accoutrement rétrofuturiste. Donc voilà, il y a des blagues en science, mais c'est souvent des blagues internes, quoi. Comme il peut y avoir des blagues, j'imagine, dans le milieu de l'économie ou dans je sais pas où. Enfin, il y a des blagues. Et puis après, il y a des blagues qui touchent tout le monde. Alors, je sais pas lesquelles sont les plus fortes. Est-ce qu'il y a des blagues scientifiques qui touchent tout le monde? Bon, je réfléchis à ça. J'ai entrevu une, je m'en rappelle d'une pendant 5 minutes là.
Ok, j'en ai une.
Vas-y.
Mais elle est absolument pas drôle, quoi. Mais c'est une blague que j'adore. C'est une blague d'archéologue. C'est un archéologue qui m'a raconté ça, qui m'a dit tu veux comprendre l'archéologie, je vais te raconter une blague d'archéologue. C'est ça qui m'a commencé à me faire vraiment réfléchir sur la science et l'humour à la science, parce que et voilà, c'est l'histoire d'un gars qui est hyper riche et tout, quoi. Et il va au pôle Nord et puis il trouve des tribus d'Inuits qui font des sculptures extraordinaires. Ils font des pingouins en train de sauter dans l'eau, comme ça, en plein vol. Ils font des ours. En train de dormir, ils font des pingouins en train de regarder le ciel, ils font des ours en train de se faire des câlins. Et le gars, il se dit, oh, c'est trop beau, j'en veux une chez moi, je veux la mettre dans le haut de mon escalier, ces sculptures anglaises sont sublimes et tout. L'esquimau lui fait, ouais, d'accord, viens, je te montre, on va te faire ta sculpture. Et donc, il lui amène un gros bloc de glace, et ils lui disent, ah, ça, c'est ta sculpture. Alors, il fait, oh, c'est super, je voudrais un phénix en train de se lever dans le ciel. Et l'esquimau regarde le bloc de glace, il dit, ah, non, ça, je crois que c'est un pingouin qui est mort.
Ah, c'est une blague d'archéologue.
Regardez, on est là, il y a une espèce de malaise énorme là qui s'installe entre nous, quoi, un truc de fou, quoi. Et ben voilà, c'est une blague d'archéologue. Non mais toi t'as compris.
C'est les situations qui m'amusent, moi. C'est un bon beat, c'est bon. J'aime le cinéma.
Mais non, mais moi je suis archéologue, donc je sais pas. Vous comprenez ma relation à la science finalement, quoi, parce que finalement ces trucs là, c'est dans des N niveaux de compréhension. Et est-ce que c'est toujours de l'humour? Est-ce que c'est pas de la private joke? Est-ce que c'est pas même voire même de la...
Il y a ça dans les blagues scientifiques. Il y a des blagues qui sont des blagues vraiment de private joke complètes, quoi. C'est-à-dire que compréhensibles exclusivement par une petite communauté de gens qui comprennent les termes de la blague, évidemment. Mais il y a aussi une chose qui est amusante en science, enfin, qui peut être amusante. Et ça, c'est un ressort qui marche très très bien. Alors, c'est pas de la science-fiction, mais c'est dans Tex Avery. C'est quand on manipule les lois de la physique. Quand on décide que les gars au-dessus du vide, ils tiennent. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il est au-dessus du vide, par exemple. Et donc là, il y a un ressort comique qui vient du fait qu'on manipule les lois de la physique, elles ne s'appliquent pas de la façon habituelle ou d'une façon légèrement décalée. Alors c'est vrai aussi dans une autre série, alors c'est de la bande dessinée, c'est encore pas de la science-fiction, mais dans, par exemple, dans Game Over et dans Kid Paddle en général, il y a des tas de trucs où il y a des machines, il arrive, il veut sortir de son jeu ou son personnage sort du jeu, puis il tire une manette, on voit une machine qui fait un truc, enfin, il y a toute une rétroaction, puis il se fait écrabouiller, ou c'est la princesse qui se fait écrabouiller sur le plafond. Et il y a un jeu sur le décalage entre les causes et les effets, et les effets qui sont pas toujours évidemment... Le gars, il pense à ouvrir sa porte, et non, ça fait autre chose. Donc voilà, tout ce décalage-là, c'est souvent un ressort comique présent.
Bah, c'est vrai que si après on veut simplement prenons deux minutes en analysant un peu de quelle manière fonctionne l'humour. Sur moi, le fonctionnement de l'ironie notamment, ça repose sur un savoir partagé de la part de la personne de la narration, du lecteur, et que ne partagent pas des personnages au milieu. Il y a toujours un décalage de savoir qui explique l'ironie. On peut avoir des fonctionnements de calembour, on va avoir une suite, comme ça on attend quelque chose derrière, et hop, on va décaler, c'est pas ce qui est attendu, mais ça a quand même un rapport. Dans tous ces cas-là, de toute façon, ça repose sur un savoir préexistant de la personne qui lit pour que ça fonctionne. Et effectivement, là, ça marche très bien en Tex Avery, parce que ces lois de la physique sont aussi des expériences communes de la manière dont fonctionne la réalité. Mais on peut aller très très loin dans, on va dire, on peut exclure le public de manière extrême.
Là, on a parlé de l'humour dans la science, dans la fiction, mais il y a aussi de l'humour dans la science, vraiment. J'ai pris des exemples des prix IG Nobel, je ne sais pas comment on dit, IG Nobel, je pense.
Ignoble, prix ignoble, en fait. Ça veut dire
voilà.
IG Nobel, ça veut dire ignoble.
C'est des prix Nobel décalés, quoi. Et alors là, on voit que la science, sans vouloir être drôle, l'est parfois, quoi. Donc j'ai pris quelques exemples. Il y a des gens qui ont été récompensés, par exemple, pour leur étude pionnière sur la découverte des composants chimiques responsables de la mauvaise odeur des pieds. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a, celle-là, elle est bien, un prix Ig Nobel de biologie. Des vétérinaires de Toulouse qui ont découvert que les puces qui vivent sur un chien, c'est hyper important, peuvent sauter plus haut que les puces qui vivent sur un chat. Alors moi je me demande.
Là c'est de la science spécialisée là.
Ouais, mais je me demande pourquoi déjà étudier ça.
Il peut y avoir des motivations. Par exemple, le premier, il y en a qui veulent, je sais pas, mettre un produit qui va évacuer, qui va supprimer les molécules qui font l'odeur des pieds. Et donc ça peut intéresser un industriel de chaussures ou de je sais pas quoi, de produits déodorants. Donc il y a des fois des recherches qui sont faites, qui sont très appliquées pour des situations industrielles qui vont après faire du business, évidemment, éventuellement. Mais il y en a aussi qui ont étudié pour des problèmes de capillarité, qui ont regardé comment le thé imbibe les biscuits, les différents biscuits, et comment ça varie en fonction de la granulité du biscuit, etc. Donc là, ça peut être des problèmes, on se dit, mais c'est pourquoi les biscuits? Mais il y a des problèmes qu'on appelle de capillarité, comment un liquide pénètre un milieu poreux, ça c'est des problèmes extrêmement importants. Par exemple, quand on veut chercher du pétrole dans les gaz de schiste, par exemple, c'est un problème important. Et en même temps, on peut l'appliquer. Une fois qu'on a compris cet effet de porosité, de capillarité, on peut essayer d'appliquer ça à plein de domaines. Et il y a peut-être des gens qui veulent construire des biscuits industriels en mettant le maximum d'air et le minimum de biscuits, parce que ça coûtera le même prix pour vous, évidemment, mais il y aura quand même moins de biscuits dedans et beaucoup d'air, de sorte que vous aurez quand même un biscuit qui va tenir quand vous allez le tremper dans le thé, et en même temps qu'il n'y aura pas trop de biscuits dedans pour que ça coûte pas trop cher à produire. Et voilà, donc il y a des fois des logiques, c'est souvent ça qu'on trouve dans ces prix Nobel, des choses qui ont derrière une logique industrielle pour en gros gagner du fric en faisant minimum de matière, par exemple, et ça aboutit à des résultats. Et alors après, pour les récompenser, on se sent de la gueule des gens parce qu'on se dit, mais il y a des types qui cherchent là-dessus. Mais chez Peugeot ou chez Renault, il y a des mecs qui réfléchissent au son que font les portières de voitures qui se ferment, hein. Ça s'appelle de la recherche. Alors évidemment, quand on est en recherche fondamentale, comme moi ou comme Étienne Klein ou comme plein de scientifiques qui sont présents ici, on a tendance un peu à rigoler, parce qu'on se dit, le prix des portières, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui compte, c'est qu'elle ferme. Sauf qu'en pratique, quand vous achetez une voiture, il y a des gens qui essayent les portières, et si le bruit n'est pas nickel, quoi, ben, ça vous plaît moins inconsciemment que si le bruit est nickel. Donc voilà, ça aboutit des fois à des recherches un peu curieuses comme ça, très appliquées. Et évidemment, en second degré, on se marre, hein, ça c'est évident. On se dit, putain, attends, les mecs, faut arrêter, quoi. Faut passer à autre chose, hein. Il y a des choses plus importantes dans la vie.
Ouais. Émile, toi, j'imagine que tu fais des recherches quand tu, un minimum, quand tu parles de science, t'es obligé de.
Oui, bien sûr.
Et tu vas fouiller dans quoi? Et est-ce que des fois tu trouves des trucs qui te font rigoler?
Des trucs qui me font rire. Déjà comprendre en fait un phénomène. En général, justement, oui. T'en parlais là tout à l'heure. Là, tu me demandais si c'était d'abord en fait le phénomène qui me faisait créer en fait l'histoire drôle, enfin ou même l'histoire, ou c'est d'abord le fait de vouloir parler de ce thème-là. Mais je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est vrai que les applications en fait rigolotes. En fait, je les vois tout de suite. Voilà, c'est pour ça que je faire des histoires où on se dit, bon, si on veut parler de la relativité, par exemple, et en parler à un enfant, bah, plutôt que lui parler peut-être de d'histoire, d'équations ou de théories comme ça un petit peu complexes, c'est de lui expliquer simplement que, le temps ne passe pas de la même façon en fonction de la vitesse. Donc, en fait, si tu pars faire un voyage à la vitesse de lumière quand tu reviens, ton petit frère est devenu ton grand frère, et ça tout de suite comme ça le touche directement, il va se dire, oh bah d'accord, alors je vais me, comment c'est possible, et à ce moment-là, il va vraiment, en fait, essayer de comprendre le problème, quoi, ou alors des histoires sur la génétique, sur le clonage, quoi, te dire un enfant, tu vois, enfin, le clonage, c'est compliqué à lui expliquer, gna gna. Tu lui dis, bah, regarde, je prends une cellule et j'en fabrique un autre comme toi. Et là, tout de suite, ça le touche parce que ça fait, enfin, il y a son ego, quoi, qui est mis en péril, quoi, et tout de suite, il veut savoir, et c'est en ça que ça me fait rire, en fait, et c'est plutôt, en fait, dans ces aspects-là.
Ouais, tu pousses les trucs, voilà.
Ouais, sinon, bah, parler de la mort aussi aux enfants, je trouve ça rigolo. Enfin, c'est ça, en fait, c'est ce décalage toujours qui me fait rire. C'est plutôt, en fait, c'est l'application même de ce que je veux faire qui me fait rire, quoi. C'est la réaction, en fait, des enfants quand tu leur dis que on va mourir, mais c'est vrai qu'on pourrait vivre très 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 longtemps si on comprend, en fait, ce qu'est la mort, ce qu'est l'apoptose, tout ça. Enfin, ça paraît compliqué, en fait, l'apoptose, expliquer ça à un enfant, mais quand les enfants sont fascinés par l'immortalité, donc en fait c'est assez simple à expliquer. Enfin voilà, quoi, c'est dans ces domaines-là, en fait, que ça, enfin, c'est ce côté-là, en fait, qui me fait rire. Okay.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, monsieur le scientifique, donc.
Trop futuriste.
Qui a compris la blague du pingouin? Deux personnes.
Allez-y.
Trois. Ah. Trois. Ouais.
Le micro ne marche pas.
Si, je vais essayer de parler un peu de Big Bang Theory et de vous le vendre un peu mieux. C'est surtout dans l'environnement que ça se passe, où vous avez des groupes de Lie, des équations de Boltzmann qui apparaissent un petit peu partout. Et quand on a un peu l'œil, on regarde ça et on voit qu'ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent réellement, ils travaillent pas dessus, ils sont pas dessus. Et en fait, ils nous parlent de choses qui sont très importantes socialement, comme la théorie des mèmes et ce genre de choses. Voilà. Et moi, ce qui me fait le plus rire, c'est dans une autre série, ce sont les réponses que Jack O'Neill fait à Samantha Carter dans Stargate. Quand elle parle de choses incroyables, et à un moment, il y a Jack O'Neill qui va balancer un petit truc. Et c'est exactement la réaction que tout le monde, tout un chacun pourrait avoir. Donc voilà, il y a tout un truc qui existait qui s'appelle la science dans Stargate, la science dans Star Wars, la science. Et ça, on voit aussi toutes les références qu'il y a dedans et c'est super important.
Ah, mais c'est vrai, comme je disais, quand on commence à porter un regard scientifique et qu'on s'amuse avec le décalage, comme faisait Roland tout à l'heure, c'est souvent très très drôle. Et Star Trek, en plus, dans l'univers de Star Trek, on a des choses, moi, qui m'ont toujours fait hurler de rire. C'est notamment quand on leur demandait de justifier les téléporteurs. Au départ, les téléporteurs dans Star Trek, c'est un truc très simple. C'est que ça coûte extrêmement cher de faire un plan où un vaisseau se pose sur une planète. Faut faire un plan général, il y a une entrée en atmosphère, comme ils veulent être réalistes, c'est l'horreur. Donc ils ont décidé assez vite, pour des questions de budget, qu'ils allaient se téléporter. Pas de bol, la série marche, l'univers commence à devenir dense, les gens veulent développer et justifier les choses, et là ils se disent, bon bah on a un petit problème pour la téléportation, c'est que bah, on a un principe d'incertitude d'Heisenberg, la molécule on peut pas savoir à la fois sa position, sa direction, sa vitesse, donc je vois pas comment on peut les recomposer. Donc très simple, ils ont inventé, il y a un appareil sur tous les vaisseaux de Star Trek, ça s'appelle un compensateur d'Heisenberg. Et donc on leur demande, ça marche comment? Très bien, merci.
Oui, ça y a réponse à tout. Mais c'est ça qui est drôle. C'est aussi le nom des machines. Parfois, c'est drôle. Hein, le motivateur d'hyperpropulsion qui tombe en panne dans Star Wars, c'est pas mal aussi. Quoi. On sent que ça a l'air dense comme machine. Et donc voilà, c'est ça. C'est ce jeu sur les mots aussi, finalement, d'une certaine façon. C'est l'assemblage de mots techniques et qui font technique, mais qui évidemment n'en sont pas. Enfin, le résultat n'en est pas. Qui fait que c'est un peu rigolo, mais ça donne le goût d'un truc technique sans en avoir évidemment le.
Puis c'est vrai qu'après on peut aller au xème degré. Après on a le guide du routard galactique.
Ah oui, alors ça.
Voilà, on a un vaisseau qui fonctionne avec un générateur d'improbabilité.
Infinie, voilà, ça c'est génial.
Et on est à chaque fois sur des décalages de points de vue. Enfin, moi je veux dire, c'est la scène du cachalot. Il y a un missile qui arrive, il déclenche le générateur d'improbabilité, tout d'un coup le missile se transforme en cachalot et on a le monologue interne d'un cachalot qui prend conscience de lui-même en haute altitude. Et qui se met à nommer les choses. Donc il y a une vision complètement édénique de la chose, mais il le prend de manière très réaliste. Bon voilà, c'est un missile qui part de la planète, on arrive en haute atmosphère, hop, c'est un cachalot. Donc il tombe. Et il prend compte de lui-même. Oh tiens, cette chose qui bouge. Non, je vais l'appeler queue. Ah tiens, oh je vais l'appeler nageoire. Ah, mais quelle est cette chose qui fait du bruit autour de moi? Je vais l'appeler vent. Ah, mais quelle est cette chose qui se rapproche de moi à grande vitesse en grandissant? Je vais appeler ça sol. Et après un grand choc mou, tout ne fut plus que silence. C'est juste merveilleux, mais c'est vrai que c'est plus simple en science-fiction. On a énormément d'auteurs qui nous font des situations qui vont, notamment à partir des années 50, quand on passe des générations, des gens comme Shelley, des gens comme Dick, qui vont prendre au second degré des clichés de la science-fiction et qui vont nous poser des situations absolument incroyables. Je veux dire, Dick, la scène dans Ubik où la personne est en train de s'engueuler avec sa porte d'entrée, qui lui explique que, d'ailleurs, il y a une agence de notation qu'on retrouve, hein, qu'il a été dégradé dans son statut de crédit et qu'il est hors de question que la porte s'ouvre tant qu'il n'aura pas glissé une pièce dans la fente. Et lui, il commence à sortir un tournevis donc pour et dire « Mais je vais vous attaquer en justice. » Et donc, Joe Chip qui est là, « J'ai jamais été attaqué en justice de ma vie, c'est pas une porte qui va m'impressionner. » On est dans des choses extrêmement, extrêmement drôles, effectivement, mais on n'est plus dans la science, on est dans le jeu sur de la science-fiction prise au second degré.
C'est le rapport à la technique, là aussi, du coup, la technique. Mais c'est un peu ça l'humour. Tout à l'heure, on disait que c'est une façon de désamorcer les situations tendues, les situations où on ne sent pas bien. Quand on vous impose un exposé scientifique complètement habitable et puis que vous êtes là, vous sortez une vanne derrière pour désamorcer ça, où là, l'objet technique qui ne se plie pas à vos volontés, il est là pour vous rendre service, pas pour vous emmerder normalement. Et bien voilà, c'est ces situations-là où on désamorce par l'humour.
Ou Bill Gates.
Bill Gates, ouais.
Bill Gates, voilà quelqu'un qui a de l'humour. On parle d'humour et de technique. Windows 95 ? Ça suffit ? Hein ? Et la présentation publique, je veux dire, où ils sont en train de présenter leur système révolutionnaire, tout d'un coup, paf, écran bleu. Et là, Bill Gates, qui sont prêts. It's not a bug, it's a feature. Donc, en version française, non, c'est pas un bug, ça, hein, ça c'est une caractéristique. C'est censé faire ça. Mais rapport à la technique et à l'informatique est absolument merveilleux.
Bill Gates, il y avait une blague qui est sortie à l'époque de Windows 95 et qui n'est pas sans rapport avec ce qu'on vit actuellement puisque c'est la fin du monde et pour bientôt. Et qui disait, il y a... alors c'est quoi? C'est Clinton à l'époque. Clinton, Yeltsin et Bill Gates sont convoqués par Dieu qui leur annonce des nouvelles. Il dit, ben voilà, la fin du monde, c'est pour dans un mois. Donc allez annoncer ça. Allez annoncer ça à la basse population de la Terre. Alors... Clinton arrive aux États-Unis, revient et annonce au Congrès, au Sénat réuni, qu'il a deux nouvelles à annoncer, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Que la bonne nouvelle, c'est que Dieu existe, et que la mauvaise nouvelle, c'est que le monde va être détruit dans un mois. Alors Yeltsin y va au Soviet suprême, et il annonce qu'il a deux mauvaises nouvelles à annoncer. La première, c'est que Dieu existe, et la deuxième, c'est que le monde va être détruit dans un mois. Et Bill Gates arrive dans son board of directors, enfin son conseil de direction. Et il annonce, j'ai deux très bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que Dieu pense que je suis important. Et la deuxième, c'est que nous n'aurons pas à livrer Windows 95. Donc voilà, bon, là, c'est encore du texte. C'est pas de la science-fiction, c'est pas tout à fait de la science, c'est de l'informatique ou du technique. Mais voilà, c'est ça. C'est toujours l'humour, c'est remarquable pour ça, de désamorcer les situations pénibles.
Une autre question, peut-être ?
Bonjour. En fait, j'ai une question. Les références humoristiques que vous avez citées, c'est pratiquement toutes des références anglo-saxonnes, américaines. Est-ce que selon vous, il y a un type d'humour qui serait plus européen ou plus français, à votre avis, quoi ? Qu'est-ce que, à ce niveau-là ?
Il a parlé d'Hergé déjà, Émile. Après, je sais pas.
Qui est belge.
Oui, mais enfin, c'est. Oui, mais... Les Belges sont français. Attends, on va pas s'arrêter. De basse considération de frontières.
En fait, je crois qu'on s'est aussi un peu. On a essayé de respecter notre cahier des charges qui était humour et science. Après, si on part en humour et science-fiction, là, dans les auteurs français, on va trouver des choses. Je vais en citer qu'un parce qu'il est présent ici en esprit et qu'on aimerait qu'il le soit. Enfin, oui, du Roland Wagner. Enfin, les aventures de Tartag et Nick Tam, de néo-punk dans 20 ans, ou d'un cochon génétiquement modifié qui est super intelligent et qui écoute du rock'n'roll. On a un jeu sur des références purement nationales qui sont extrêmement drôles. Je me suis promis de pas le dire, mais je vais le dire. On a quand même une grande comédie de science-fiction française, où on peut appeler des extraterrestres en pétant.
La soupe aux choux.
Oui. Non, j'ai dit que je ne citerai pas. C'est des choses qui ne font pas bien, du bien au genre. Mais c'est vrai qu'après, si on...
C'est vachement bien la soupe aux choux.
Ouais, moi j'adore aussi. Hein.
Moi j'étais gamin, c'était le premier score électronique que j'entendais. C'était vachement bien la soupe aux choux. C'est hyper beau, c'est hyper émouvant. quand il retrouve sa femme, là, qu'elle revient et qu'elle repart avec un gars, avec le... c'est super beau qu'il fasse une omelette.
C'est non, pas plus con que le ni-ni-ni-ni des rencontres du troisième type pour appeler les extraterrestres après tout.
C'est super romantique. Quand il... En plus, il y a des super dialogues. Là, il dit, attends, il faut arrêter de péter. Si chaque fois qu'on pète, on fait tomber une soucoupe volante. Tu vois. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, je sais pas. Moi, mais il est vachement drôle, ce film. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et il est considéré comme un chef-d'œuvre par plein de gens qui sont pas français. Hein. Et c'est un des rares films de Louis de Funès qui a réussi à passer. Mais c'est vrai. Et puis. Moi, je le trouve touchant.
Moi aussi, je suis assez d'accord. Il est hyper émouvant. Hyper justement, émouvant, il y a un truc de relativité avec la femme qui redevient jeune.
Mais il y a un pur truc de voir.
Il y a un film comme ça de 1942 qui s'appelle Croisière sidérale, je crois. Croisière sidérale, où c'est rigolo, mais au second degré maintenant, parce que c'est un peu ça l'idée. Il y a un couple de scientifiques, et donc le gars ne peut pas partir finalement. Ils doivent faire un voyage en ballon dans la stratosphère et revenir pour étudier les rayons cosmiques. Bon. Le gars va pas partir parce qu'il se fout de la cheville, donc sa femme part, et il y a un problème, le technicien qui les accompagne, il déconne, il fait des bêtises, le ballon s'envoie, il a l'air d'aller très vite, puis elle revient, finalement ils reviennent sur Terre, ça a un peu changé, ils vont au laboratoire, il y a un vieux type qui les accueille, c'est le mari. Il dit, ah merde, le mari est tout vieux, la fille elle est restée jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a tous les effets. J'ai compris, c'est la relative. Alors, il fait les équations pendant 2 minutes au tableau dans un film, donc ça c'est quand même assez impressionnant, des équations sont toutes justes. Et puis là où c'est super marrant, c'est qu'ils disent, pour rétablir la situation, c'est ce qu'on va faire, on va refaire un voyage. Alors il y a tout un tas d'autres choses qui se passent, mais on va refaire un voyage, c'est le mari qui part et la fille qui reste. Et donc ils se sont mariés en genre la veille du départ en ballon où le mari n'a pas pu partir. Et ils se retrouvent à la fin du film, ils ont tous les deux 70 ans, ils ont tous les deux vieilli, sans jamais s'être croisés pendant cette période-là. Et donc voilà, il y a des... sur les relativités, il y a des humours. Là, c'est du second degré, là, c'est vrai qu'ils faisaient ça sérieusement pour vulgariser. Enfin, ils parlaient de la relativité restreinte d'Einstein dans ce film-là.
Möbius. Oui. Möbius aussi. Carrage hermétique, c'est à hurler de rire, quoi. Oui. Mais bon, alors, après, est-ce qu'on est encore dans la...
Arzac.
Mais non, mais c'est un truc comme ça, c'est-à-dire ouais. que finalement, la science, est-ce qu'elle est sérieuse d'elle-même ou est-ce que c'est la manière de prendre la science? Est-ce qu'elle est drôle en elle-même? Ou est-ce que c'est la manière dont on la prend qui est drôle? Finalement...
C'était la question à laquelle on voulait répondre.
Ouais.
On n'a pas réussi, je crois. Mais...
Non, mais là, je sais pas, j'en sais rien.
Non, mais c'est oui, on a vu les deux points
pour
de
vue.
Pour
l'instant, on a un contexte, c'est vrai, le Big Bang Theory, c'est juste... On utilise la science pour dire qu'on est des geeks, alors il y a ce glissement entre du nerd au geek qui est un peu étrange, qui est fait dans la série, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est drôle, c'est la manière dont ils utilisent la science, eux, pour parler de leurs problèmes hétérocentrés, quoi. Mais globalement, ils sont pas, c'est pas la science elle-même qui est drôle. D'accord. Mais pourtant, elle pourrait l'être. Enfin, non, je sais pas. Est-ce qu'on la prend pas un peu trop au sérieux, des fois?
Oui, c'est une sorte de comique de situation de toute façon, avec un savoir scientifique qui pourrait être totalement évident, qui en fait les rend complètement équivalents à des aliens. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des choses absolument fondamentales, très simples pour eux, par lesquelles ils définissent leur quotidien, alors que nous, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Mais il y a énormément de gags dans Big Bang Theory qui sont liés à des choses, des comiques de situation purement sociologiques. C'est-à-dire quand ils sont tous en train de jouer au même MMO autour d'un canapé, et qu'il y en a un qui chope l'épée, que l'autre immédiatement il se téléporte, il avance sur eBay avec le dernier qui l'achète en même temps sur eBay. Ouais. Je vais l'attendre l'épée. On est dans quelque chose d'extrêmement drôle. Moi, c'est un comique de situation et de chronique sociale. Moi, les exemples qui me venaient en tête aussi quand je réfléchissais aux choses, j'avais énormément ri en science-fiction. On est pareil. On est sur du décalage de situation, du décalage d'utopie absurde. Voilà. C'est-à-dire si je peux déprimer en regardant 1984 et être aussi déprimé au fond, mais hurler de rire devant Brazil. Mais c'est pas la science qui me fait rire. Effectivement.
On va s'arrêter là. Merci aux intervenants, merci d'être venus nous écouter.